toutes et à tous, merci à l'organisation, à Elisabeth et à Sophie. Donc une demi-heure en gros, c'est ça. Ouais. Donc ma présentation s'intitule « L'urbanisme à l'heure du numérique ». Et ce que je vous propose en fait, c'est de repenser en fait les transitions en lien avec le numérique, mais en fait à partir du champ, à partir des pratiques de la planification urbaine, et notamment en fait à partir d'un corpus théorique qui est celui de la planification urbaine. Donc je ne vise pas en fait à faire une étude de la Smart City et du numérique comme un système technique, mais plutôt en fait d'analyser toute une série d'usages du numérique dans la pratique de l'aménagement, en considérant finalement qu'on est face à un processus qui est pervasif, hein, pour reprendre les termes de Dominique Bouguier, en nous intéressant à la fois à la dimension substantielle de l'aménagement, donc sur les contenus des projets, sur la matérialité de la ville, mais surtout en fait à la dimension procédurale, donc c'est-à-dire aux acteurs qui fabriquent cette ville et aux rapports de pouvoir dans lesquels ils peuvent être insérés. Donc on va plutôt s'intéresser à la dimension procédurale, même si on va quand même observer la matérialité des changements pour questionner la configuration des acteurs et de leur manière de fabriquer la ville, donc de faire de l'urbanisme en interrogeant les méthodes, mais aussi les postures professionnelles et les rapports de pouvoir. Donc ma présentation en fait elle se structure en quatre parties que je situe autour d'une typologie où je vais différencier tout d'abord des types d'acteurs avec d'une part des acteurs non institutionnels, donc qui renvoient finalement aux acteurs privés ou à la société civile, et puis de l'autre côté des acteurs publics. Ensuite je vais essayer de différencier des types de plateformes numériques. Donc pour voir si la plateforme elle est ouverte, donc co-construite avec les utilisateurs, est-ce que le code est ouvert, est-ce qu'on peut la reproduire, est-ce qu'elle a un usage marchand ou pas. Et puis de l'autre côté, une plateforme qui peut être fermée, donc contrôlée par des acteurs qui peuvent être publics ou privés, et puis dont on n'a pas accès au code, qu'on ne peut pas reproduire, et dont souvent les usages sont marchands ou encore politiques, avec une vision de contrôle politique. Et donc ça me permet finalement de mettre en avant quatre configurations, quatre figures types de l'urbanisme à l'heure du numérique. Donc il ne faut pas imaginer que ces figures types, elles sont totales et qu'en fait on est soit dans un cas et pas du tout dans l'autre, on est plutôt dans des configurations locales où on a de la complexité. Et disons qu'on a quatre directions, quatre grandes directions possibles dont il me semble qu'on peut les situer en fait par rapport à cette lecture entre type d'acteur et type de plateforme. Donc la première possibilité, et ça sera ma première partie, c'est un urbanisme algorithmique. On a plutôt des acteurs institutionnels et des plateformes privées. Ensuite, en deuxième partie, on verra un urbanisme ubérisé. Donc là, on est plutôt sur la dimension des transformations liées à la disruption liée aux acteurs privés. Et donc là aussi, on est dans des plateformes fermées parce qu'il y a un enjeu de contrôle marchand ou de contrôle politique, enfin plutôt marchand là. Ensuite, on a deux formes d'urbanisme qui renvoient finalement à un changement des modes de production de la ville avec une plus grande ouverture vers les habitants, les usagers, les citoyens, avec une dynamique qui peut venir du bas, donc c'est plutôt la dimension wiki, et puis une dimension qui peut plutôt venir des acteurs publics sur la manière dont ils vont venir intégrer le tournant, l'impératif délibératif ou encore participatif qu'on nous présente de manière dominante dans la littérature. Donc première partie, un urbanisme algorithmique. Donc là en fait, il s'agit plutôt d'interroger les méthodes de l'urbanisme, en tout cas la transformation des méthodes de l'urbanisme à l'heure du numérique, à l'heure du smart, et donc de poser la question, si on se situe bien dans le champ des théories de la planification, de l'hypothèse d'un retour d'un urbanisme d'expertise, donc tel qu'il a pu exister de manière très forte à partir de l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, dans la période du modernisme, on a la figure de l'ingénieur, des techniques, et où finalement l'urbanisme est une chose trop sérieuse pour la laisser à d'autres gens que les ingénieurs, que ceux qui ont une vraie connaissance technique. Et donc on peut faire l'hypothèse que le smart en fait nous redonne de la place à la technique et change une nouvelle fois les postures professionnelles et notre rapport à la techno. Donc la base de cette figure type, c'est bien sûr l'existence de big data, donc de grosses données ou de données massives, hein, pour reprendre la traduction québécoise, donc qui vient qualifier finalement le volume des informations qui se situent dans le nuage, avec des informations qui sont caractérisées par un volume important, une vitesse, une variété, et surtout une valeur de ces données liées aux possibilités d'exploitation commerciale. Et donc tout le monde, ou presque, devient voilà, producteur de données et donc permet à certains acteurs du numérique de valoriser une partie de ces données, avec un enjeu important qui est l'enjeu du traitement de ces données et de leur visualisation à travers des outils techniques tels que l'algorithme, ou encore maintenant, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, mais finalement on est dans la même dynamique. Et donc bien évidemment, il y a un enjeu important de contrôle de ces techniques, donc de maîtrise de ces techniques-là, avec des questions claires sur c'est quoi être urbaniste au XXIe siècle. Et puis bien sûr, du point de vue politique, des risques quant aux libertés publiques, et donc quant aux possibilités de surveillance, de punition que ça peut impliquer. Et donc on voit bien que dans certains régimes autoritaires, comme en Chine, ça peut donner lieu à des expérimentations qui peuvent être assez effrayantes, et on est vraisemblablement qu'au début de ce type de dérive. Donc dans le champ spécifique de l'urbain, on a vu en fait apparaître des transformations d'acteurs du monde du numérique, en tout cas l'arrivée de nouveaux acteurs de l'urbain, comme la firme informatique IBM, avec des programmes qui ont maintenant une vingtaine d'années, comme le programme des villes plus intelligentes, qui s'intéressait finalement à toute une série d'enjeux urbains, que ce soit autour de la planification, de la gestion, de l'énergie, de l'eau, des transports, de l'éducation, et qui vraiment venait proposer des solutions de gestion clés en main. Et donc on voyait bien que finalement, tout d'un seul coup, le champ de l'urbain apparaissait comme une source de profit potentiel très très importante. Et donc finalement, on est en train, ou en tout cas on a vu, se réaliser des control rooms, et donc finalement faire renaître le rêve un peu de la cybernétique qui avait été très très fort dans les années 50-60. On avait déjà vu ce type de tentative au Chili ou aux États-Unis. Et donc là, on a l'expérimentation, je dirais, la plus aboutie se trouve au Brésil, à Rio, avec d'abord des usages qui étaient plutôt tournés autour de la circulation, de la météo, et qui progressivement s'élargissent autour des enjeux, par exemple, de sécurité ou de développement économique, en tout cas, une volonté de couvrir une large série d'enjeux urbains. Et puis, bien sûr, beaucoup de controverses politiques pour savoir qui contrôle ces données. Et donc, à Rio, on a vu apparaître des control rooms, mais alternatives, avec des cartes participatives pour que les citoyens puissent partager eux-mêmes des données. On a vu aussi dans certaines villes françaises des municipalités qui avaient donné des marchés à des grands groupes comme IBM, je pense à Montpellier, et qui ont fait le choix de revenir en arrière et de revenir à une gestion directe de ce type de plateforme. Et donc ce genre de mécanisme, on le voit autour d'IBM, on peut le voir autour d'autres grands groupes comme Cisco, ou dans d'autres villes même françaises comme Nice. Et donc finalement, ce système technique, il va faire dialoguer des data, souvent une control room, et puis bien sûr, la matérialité physique de l'infrastructure dans la ville, c'est la présence de réseaux intelligents, donc de smart grid, qui vont venir connecter toute une série de bâtiments ou d'objets pour monitorer en temps réel toute une série de flux ou d'usages, et donc collecter des données pour réguler au mieux la ville, avec bien souvent cet objectif de rendre plus opérationnel le développement durable, mais avec toujours cet enjeu, cet angle mort qui peut être sur la dimension de l'appropriation citoyenne et des controverses quant aux libertés publiques. Donc, bien sûr, ça permet aussi l'autre objet technique un peu impressionnant, c'est toutes les modélisations 3D. Donc là, on voit un exemple fait par la firme française Dassault, donc qui fait ça à Singapour avec le MIT, qui développe ça aussi maintenant à Rennes. Et donc, toujours avec des incertitudes vraiment sur à quoi ça sert. Moi, je fais partie du comité scientifique de l'expérimentation à Rennes, et en fait, on voit bien que Rennes Métropole, ils sont très très heureux, très fier d'avoir une super maquette 3D, mais ils ne savent pas du tout en fait quoi en faire. Donc on voit bien qu'on est finalement dans des usages qui sont encore assez émergents, mais qui potentiellement interrogent beaucoup finalement ce qu'est l'acte de planification à l'heure du numérique, à l'heure de l'algorithme. Et donc moi je pense qu'on peut en tout cas poser l'hypothèse du retour d'une planification rationnelle, bureaucratique, telle qu'elle a pu exister dans les années 50-60, mais avec le retour de cette figure classique de l'ingénieur hein, qui existait, qui a dominé la production de la ville. On peut penser à la reconstruction, nos polytechniciens, notre école des ponts. Mais là, finalement, l'ingénieur change. Donc on passe à un urbaniste geek, data analyst. Mais en tout cas, je pense que pour je pense beaucoup d'entre nous dans la salle qui sommes des spécialistes de l'urbain ou qui formons des futurs urbanistes, ça pose vraiment des questions sur quelles sont les compétences de ces urbanistes et quelles sont aussi les autres champs professionnels de l'informatique, notamment, qui viennent s'approprier ce champ de la fabrication de la ville. Et donc finalement, le smart, en tout cas l'algorithme, permet d'avoir moins d'incertitude, mais en même temps moins d'espace public pour dialoguer, pour discuter et pour finalement arbitrer collectivement les valeurs et les intérêts qui font les décisions d'aménagement. Donc c'est finalement le sens même de l'acte de planification. Et là finalement le recours à l'algorithme bah, permet d'avoir une réponse toute faite avec, on peut l'imaginer, beaucoup d'enjeux politiques pour déterminer quelles sont les attentes de l'algorithme, puis beaucoup de dérives en termes de clientélisme, de surveillance. Donc je peux renvoyer aux travaux notamment d'Antoinette Rouvroy, qui est une philosophe belge, qui a beaucoup écrit sur cette gouvernance algorithmique. Et donc je pense que le recours à l'intelligence artificielle et donc aux systèmes qui vont apprendre d'eux-mêmes risque vraiment de transformer une partie de l'activité professionnelle de l'urbaniste. Donc il me semble que c'est un champ de recherche, d'interrogation qui est intéressant et qui devrait se poursuivre. Donc deuxième partie de ma présentation, donc là je m'intéresse plutôt finalement aux acteurs privés à l'heure de la disruption numérique, et donc je pose la question finalement de toutes ces plateformes du type Uber, Airbnb, qui viennent changer le contexte de la planification, et je pose l'hypothèse d'un urbanisme post-stratégique, donc pour renvoyer finalement à quelque chose qui viendrait dépasser le courant stratégique de la planification qui est apparu dans les années, enfin qui a été très fort à partir des années 80 et qui renvoyait finalement une sorte de néolibéralisation, de coopération entre acteurs publics et privés, mais sous des formes d'antan, donc la figure du régime urbain ou encore de la coalition de croissance. Mais là finalement on n'est plus vraiment dans les acteurs publics et privés qui s'entendent eux-mêmes pour faire une ville un peu plus libérale, mais plutôt dans des formes de contournement, il me semble, d'acteurs privés qui viennent parfois se confronter ou plutôt contourner les acteurs publics. Donc la base de cette dynamique-là, donc là on est encore dans des big data, mais on est dans une optique un petit peu différente, on est plutôt, il me semble, dans l'économie du partage, avec cette idée que l'acte commercial n'a plus lieu entre un particulier et une entreprise, mais plutôt directement entre deux particuliers par l'intermédaire d'une plateforme. Donc ça, c'est l'idée d'origine, la version, on va dire, soft, en tout cas idéale. Et donc on voit finalement que cette volonté de partage, ces usages un petit peu différents, avec moins d'appropriation des objets ou encore de services, eh bien, a pu venir transformer des services publics plus ou moins traditionnels, en tout cas des grands acteurs traditionnels des services publics urbains, avec l'arrivée de Vélib en 2007 ou d'Autolib en 2011. Mais donc derrière, finalement, cette idée de partage, on avait des groupes traditionnels, si c'est de co, ça n'a rien de nouveau, et puis un mouvement classique qui est celui de la poursuite de la privatisation des services publics en ville, donc qui est notamment très fort, en tout cas qui prend une nouvelle vigueur à partir des années 80. En tout cas en France, dans le contexte de la décentralisation des pouvoirs. Et puis par contre, on voit aussi l'arrivée de nouveaux acteurs de l'urbain, qui eux ne sont pas des acteurs traditionnels de l'urbain, qui viennent du numérique, comme les grandes majors, comme Google, Amazon. Et donc là, on voit les nouvelles cabines téléphoniques new-yorkaises proposées par Google, qui proposent toute une série de services. et qui voilà, viennent offrir un service qui était traditionnellement plutôt pris en charge par, soit par la municipalité, soit par les délégations de services publics, mais avec toujours cet objectif de collecte de données et de marchandisation de ces données. Donc on a un changement finalement de modèle économique qui touche la ville, mais qui touche aussi en fait toute une série d'autres activités, liées par exemple au financement, à l'éducation, à la logistique ou à beaucoup de services à domicile, avec un modèle économique centré sur l'usage, sur des modèles innovants liés au numérique, sur des plateformes qui sont plutôt digitales, sur des interdépendances entre les utilisateurs et les fournisseurs de services, et sur des prix notamment qui peuvent être largement dynamiques, adaptés dans le temps et dans l'espace. Et donc dans le champ de la ville, on peut y voir quelques exemples marquants, et donc notamment ici on est à Paris, et donc Paris c'est le premier marché pour Airbnb mondial, avec 47 000 logements inscrits sur la plateforme. Donc tous n'ont peut-être pas suivi les dernières obligations d'inscription et du recours au numéro d'enregistrement, mais quand même on est là face à un changement, en tout cas un impact important sur les équilibres du marché du logement. Et puis donc bien sûr des controverses importantes. Là on a l'exemple marquant à San Francisco où en fait des groupes de citoyens interpellaient la firme Airbnb sur leur contribution fiscale et sur l'impact qu'ils pouvaient avoir sur les équilibres de la ville, et puis des réponses d'Airbnb, donc des controverses importantes qui, à San Francisco, ont donné lieu à un référendum local, à finalement un désaccord, et donc on voit exactement des situations assez similaires en France, avec notamment toute la campagne qui peut être menée par Yann Brossa, qui est l'adjoint au logement de la mairie de Paris, et qui a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle La ville ubérisée, je crois. Donc d'autres exemples importants, on peut les trouver sur le champ de la mobilité avec les vélos en free floating. Donc là, l'image, elle est un peu forte, on est en Chine. On a connu, sur une échelle un peu plus réduite, mais en tout cas des phénomènes un peu similaires en France. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut se poser la question de savoir ce qu'il y a vraiment au-delà de la disruption. Est-ce qu'on ne peut pas y voir des formes de complémentarité? Donc bien sûr, c'est le discours officiel développé par ces grands groupes, comme Uber à Hong Kong, qui nous explique qu'en fait, ils ne sont pas du tout en concurrence avec le métro, mais plutôt en complémentarité, et que la plupart de leurs trajets s'effectuent au départ ou à l'arrivée d'une station du réseau lourd. Et donc, quand même, on voit aussi des formes de complémentarité qui peuvent à la fois se passer dans le cadre de délégations de services publics, donc des acteurs tradis qui changent leur pratique, comme Keolis, qui a le réseau de transport à Lille, ou même finalement, on peut voir aussi la transformation actuelle qui a lieu pour remplacer l'offre Autolib. On voit que finalement, la mairie de Paris, elle n'est plus dans le cadre de refaire une délégation de services publics, de retrouver un seul acteur, mais plutôt de se dire, on va demander à PSA, à Renault, à Daimler-Benz, à une multitude d'acteurs de l'autopartage, de la location, de proposer des solutions que nous, on va essayer d'intégrer avec un support d'information ou voire un support de connexion. Donc il me semble que finalement, ça change un petit peu le rapport des acteurs publics à la production de la ville. Et moi, là, plutôt, je fais plutôt l'hypothèse du retour du courant du choix public, donc du public choice, qui a été extrêmement fort dans les années 70-80, qui était traditionnellement, en fait, la réponse libérale quant au débat sur le gouvernement des villes, qui portait plutôt un débat sur est-ce qu'il faut faire ou pas un gouvernement métropolitain. Donc là, en fait, le courant libéral nous disait non, il faut en fait laisser la ville se réguler elle-même, parce qu'il faut avoir un secteur public qui est le plus petit possible, avec une volonté d'économie, et donc laisser finalement le choix aux citoyens de voter avec leurs pieds, et de choisir leur municipalité en fonction du niveau de service public ou de taxation qu'ils désiraient. Et donc je trouve que là, en fait, on retrouve vraiment cette idée d'une ville comme un marché qui peut s'autoréguler. Et donc j'y vois une proximité avec le courant de la planification stratégique, mais plus vraiment dans des formes de partenariat, mais plutôt de contournement. Et donc il me semble que ça pose vraiment des questions sur quel est l'acte de planification, et que ça demande un petit peu des adaptations. Et donc, en effet, faire un plan de déplacement urbain ou un programme local de l'habitat à l'heure d'Uber ou d'Airbnb, c'est plus du tout la même chose. On voit que ça demande pas forcément des réactions du type non, non, il faut interdire, mais en fait, qu'on peut aussi peut-être travailler avec ces plateformes. Et il me semble que le cas de ce qui se passe après Autolib à Paris est assez éclairant en fait sur ces transformations de la pratique de la planification. Donc troisième partie, donc les citoyens à l'heure des mobilisations numériques. Donc là, je vous propose de voir finalement comment, du point de vue de la participation du public, le numérique peut aussi être à la base de transformations importantes. Et donc là, finalement, on retrouve les origines d'Internet avec une invention qui vient du domaine militaire, qui est un produit de la contre-culture américaine. Qui est à la fois une invention du domaine militaire, mais aussi un produit de la contre-culture américaine, et donc qui est aussi une invention sur un mode décentralisé, et qui donc est produite par toute une série de militants qui sont en proximité avec une partie des mouvements sociaux. Et donc on retrouve derrière ça un idéal de partage, de neutralité dans le web qui exclut toute discrimination quant à la source, la destination ou le contenu qui est partagé sur le web. Et donc on y voit bien sûr des nouveaux modes d'appropriation du territoire et des nouvelles capacités collectives. Donc un des exemples classiques quand on s'intéresse à la ville, au territoire, c'est ce qui peut être fait dans la cartographie collaborative d'OpenStreetMap. Ou encore à toute forme de mobilisation en ligne, avec notamment les pétitions qui viennent finalement donner une nouvelle vigueur aux mouvements sociaux urbains. Donc là, j'aime bien cet exemple marseillais où en 4 jours, près de 20 000 citoyens marseillais ou non marseillais avaient exprimé leur mécontentement face au projet de la municipalité de construire un casino face au musée des civilisations. Et donc la mairie avait décidé de revenir sur leur décision. Donc on voit bien qu'il y a une capacité transformatrice en fait de ces réseaux sociaux numériques. Et puis il y a d'autres formes plus construites, plus abouties, comme Démocratie OS, qui est apparu en Argentine et qui propose de débattre et de voter toute une série d'enjeux, et qui donc a réussi à désigner des représentants au conseil municipal qui à chaque fois en fait se prononce en fonction des retours des citoyens. Et donc finalement, on voit dans ce mouvement un petit peu citoyen à la fois des personnes qui proposent de transformer la démocratie, et puis d'autres qui proposent de renforcer l'engagement civique. Et donc c'est assez intéressant de voir que finalement on a des parcours militants, des parcours professionnels, et que ce qui relève du militantisme, ce qui relève de l'engagement pro ou politique, est parfois assez flou, avec donc toute une série de plateformes ou de groupes. Donc, par exemple, vous voyez tout en haut data.gouv, donc là qui est la version la plus acteur public possible. Et puis, par contre, à la base, vous voyez plein de groupes plus informels, ou en tout cas moins organisés. Et donc, s'il me reste en gros 5 bonnes minutes, c'est ça ? Ouais. Donc, si on conclut sur cette troisième partie, je pense que là, on est plutôt sur un urbanisme post-politique ou libertarien qui, quand même, a des formes de proximité avec ce qu'on avait pu voir précédemment, avec une légitimité des acteurs publics qui est remise en cause par les citoyens, donc en plus de ce qui peut être fait par les acteurs privés, avec cette idée d'une coopération libre, volontaire des individus, dans le champ de l'économie, du social, de la politique, avec quand même, il me semble, parfois une volonté de réduire la place des autorités publiques. Et donc, il me semble qu'on peut voir une sorte de rencontre entre les courants stratégiques, post-stratégiques, et puis cette nouvelle version d'un urbanisme communicationnel de la planification urbaine. Et donc, quatrième dimension, là, je vous propose plutôt, là, c'est peut-être un peu plus connu, mais de voir comment le numérique peut aussi être approprié par les acteurs publics, donc par un acteur majeur de la production urbaine, pour rendre un peu plus effectif ce tournant participatif collaboratif. Donc là, je reprends une illustration du collectif Démocratie Ouverte qui nous explique que finalement le numérique change différentes dimensions de la production urbaine, à la fois en donnant la possibilité d'avoir plus de transparence, en changeant les modes de collaboration en interne et puis en externe avec de la participation du public. Donc on a un mouvement qui est ancien, qui se développe, là peut-être que mes chiffres sont même vieillissants, mais en tout cas on a un mouvement progressif d'ouverture des données avec des engagements nationaux, européens, pour avoir une gouvernance plus ouverte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que plus les collectivités locales s'engagent dans ce type de processus, et plus elles sont convaincues de leur utilité. Donc il y a un mécanisme un peu apprenant, qui est plutôt optimiste. Et donc, je peux prendre quelques minutes peut-être pour vous présenter différentes plateformes qui en fait renvoient à des types de visualisation ou des types de délégation politique différentes. Donc on peut avoir par exemple de la reproduction de méthodes qui vont exister dans l'espace physique in situ, comme le jeu de post-it, plus ou moins localisé, avec des questions ouvertes. Donc ça, c'était une expérience à New York. On peut aussi avoir des cartes participatives, donc en deux dimensions, on va permettre aux citoyens de proposer des idées, de discuter, de les voter. Donc ça, c'est l'exemple marseillais, donc maintenant qui participe à eu des usages dans le cadre de documents de planification comme le PLUI de Grenoble ou de Lille, ou encore le PLU de Laval. Et puis il y a d'autres formes qui renvoient à des délégations peut-être un peu plus importantes de pouvoir, et toujours en fait avec des usages un petit peu hybrides entre ce qui relève de la plateforme online et puis in situ. Je pense qu'un des exemples intéressants, c'est le budget participatif parisien, avec toujours finalement toute la participation autour du budget, même si c'est dans des ateliers ou dans des parcours ou dans des votes, dans des urnes physiques, se retrouve toujours en fait un moment ou un autre sur la plateforme numérique. Et donc quand même plus de 5000 idées, 6000 idées, des dizaines de milliers de citoyens qui participent. On a aussi d'autres plateformes qui ont l'avantage de réintroduire en fait de la complexité dans les choix d'aménagement. Et donc de se dire, bah, c'est quoi faire de l'aménagement? Bah, c'est discuter des valeurs, des intérêts qui font les choix d'aménagement. Et donc sous des formes un petit peu de géotechnologie, de permettre de faire des choix de localisation, de densité, de système de transport, de système de transport routier, et donc de tracer des cartes du tamon urbain avec des impacts en matière de consommation énergétique ou de finances publiques. Donc ça permet finalement de réintroduire des limites au débat public sur le territoire. Et puis même d'autres plateformes, peut-être un peu plus incertaines, mais qui permettent même d'introduire de la 3D et donc de discuter même de la production de formes urbaines. Donc là, j'avoue que je suis un peu moins convaincu, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça peut aussi exister. Donc on a finalement différentes plateformes avec, comme je le disais précédemment, des niveaux de spatialisation différents, plus ou moins vers la 2D, la 3D, et puis des formes de délégation, d'ouverture politique, plus ou moins importantes. Et donc, je n'ai peut-être pas passé beaucoup de temps là-dessus, mais ça m'avait permis dans mes travaux d'essayer de proposer une échelle digitale de la participation citoyenne, donc pour reprendre les travaux de Sherry Einstein, pour se dire que finalement, toutes ces plateformes numériques liées à la participation du public, eh bien en fait, ça renvoie surtout à des choix de design de politique publique et de design de plateforme. Donc on est face à des dispositifs socio-techniques qui ne sont pas neutres, et donc il y a des choix importants qui vont avoir des conséquences, et donc on peut les discuter de la même manière qu'on peut critiquer un sondage ou la manière dont on va réunir un conseil de quartier ou organiser un conseil municipal. Et donc pour terminer sur cette quatrième partie, donc là on voit qu'on a une approche classique finalement qui pose les mêmes questions classiques qu'on peut avoir sur la participation, avec des acteurs qui sont centrés sur la production de consensus, des méthodes communicationnelles, interactives, une mise en œuvre se veut continue, processuelle, mais avec toujours les mêmes enjeux quant au rapport de pouvoir, de domination qui peuvent exister dans la production de la ville. Donc les mêmes questions, les mêmes limites qu'on peut poser à des dispositifs classiques de la participation non numérique, qu'on peut les retrouver sur le numérique. Donc le numérique en soi n'est pas la solution ou l'assurance tout risque à ce type d'enjeu. Et donc en conclusion, bon là je synthétise un peu mon propos et mes figures types, mais l'idée principale c'est surtout de se dire que oui, on a ces quatre formes, mais qu'en fait elles vont interagir les unes avec les autres et que dans le temps, dans le territoire d'une configuration locale, on ne va pas avoir une dimension qui va éclipser une autre, mais plutôt une dimension qui, dans une ville, va être plus importante que dans une autre ville. Donc quand on est à Paris, peut-être que la dimension régulation des plateformes privées est très importante, et peut-être que la dimension appropriation par les acteurs publics de ces enjeux de participation est importante, et dans une autre ville comme Singapour, on va avoir plus de surveillance, voire de punition liées à ces algorithmes, et peut-être moins d'enjeux liés à la participation du public. Donc plutôt l'idée d'insister sur des configurations locales avec une figure qui n'éclipse pas une autre, mais plutôt une version un petit peu dynamique. Et donc juste une dernière diapo pour dire que voilà, les promesses associées au numérique sont nombreuses, hein, résilience, durabilité, participation, tout ce que vous voulez. Donc c'est bien sûr une des portes d'entrée des mutations contemporaines. Il me semble que, en tout cas, un des intérêts des dimensions numériques, c'est qu'on porte à la fois sur la matérialité de la ville et puis sur la façon dont les acteurs peuvent s'articuler les uns avec les autres. Et donc les perspectives intéressantes de recherche ou même de la pratique, c'est d'observer la complexité de ces interactions locales, d'observer aussi les usages des big data, de l'intelligence artificielle dans la fabrication des plans, des projets, la régulation des plateformes d'échange, donc marchandes, et puis bien sûr l'appropriation des outils de la civic tech. Voilà, merci beaucoup.